Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, un quart d'heure pour se plonger dans l'actualité spatiale avec un ingénieur qui travaille à la NASA. Si vous êtes un fidèle de Tech & Co, Nasser Chahat avait été l'invité de Tech & Co il y a un peu plus d'un an. Et il est de retour, mais cette fois-ci, non pas en duplex depuis la Californie, mais sur notre plateau. Nasser, bonsoir.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Et je suis très heureux de vous recevoir parce que vous êtes rarement en France, même si vous êtes français. Ouais. Voilà, vous travaillez depuis quelques années en Californie, à Pasadena, l'un des nombreux sites de la NASA, hein, puisque la NASA est un petit peu partout. Le siège principal est à Washington, je crois. Ouais. Nasser, un mot avant de parler de toute l'actualité, de tout ce que vous portez au sein de la NASA avec toutes vos équipes, bien évidemment. Un mot sur votre parcours, parce que donc vous êtes français, vous avez grandi dans le sud-ouest de la France, je crois. Vous êtes d'Agen.
C'est ça.
Ouais. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours.
Alors moi, je suis né, grandi en France. J'ai passé toute ma jeunesse en France. J'ai fait un UT. Ensuite, j'ai joint une école d'ingénieur qui est l'ESIR, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, où je garde
très réputé.
Souvenir, très réputé, oui, bien dans sûr. Le domaine de télécommunications. Mm-hmm. Ensuite, j'ai continué avec un doctorat. J'ai très bien fait de faire ça parce que dans mon domaine, il faut avoir un doctorat pour être très spécialisé.
Un doctorat en télécom.
Un doctorat en spécialisé dans le domaine des antennes pour la télécommunication.
D'accord. Ouais.
J'ai rien à voir avec le spatial, mais un doctorat, c'est très utile parce que ça nous permet à devenir très innovant et très indépendant. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très apprécié aux États-Unis.
Donc doctorat en poche que vous avez eu en France.
C'est ça.
Vous partez aux US direct après? Ouais.
Donc je suis allé aux US en post-doctorat, donc c'est une année de recherche que j'ai effectuée au sein du JPL et de Caltech, une université très prestigieuse.
Mais au départ, c'était pour faire votre carrière aux US ou simplement faire cette année?
Non, alors moi, j'ai toujours été très nationaliste et je voulais revenir en France pour probablement dans le domaine académique, mm-hmm. probablement pour devenir professeur ou pour faire de la recherche. Mais je suis tombé amoureux du site du JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui est spécialisé dans la robotique, l'exploration spatiale. Et depuis que je suis là-bas, j'ai eu énormément d'opportunités de grandir en tant qu'ingénieur, d'apprendre énormément de choses et de travailler sur des missions qui sont uniques en son genre.
Donc, oui.
Ce n'est pas le cas dans la plupart des autres entreprises ou centres de la NASA.
Des choses qu'on fait qu'une fois dans sa vie, typiquement Ingenuity, avec ce petit rover dont vous avez vous êtes occupé des petites antennes, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, hein, vous êtes un dieu des antennes hein, en quelque sorte, donc la NASA vous utilise pour ça. Quelle était votre mission lors de l'Ingenuity, enfin cette mission Ingenuity qui était l'année dernière?
Alors sur Ingenuity, j'ai eu plus de contributions que seulement les antennes. En fait, j'étais aussi l'ingénieur système télécom. Donc mon rôle, c'était de développer les antennes, mais aussi de faire en sorte que le système de télécommunication avec les radios fonctionne parfaitement.
D'accord.
Et qu'on soit capable de toujours communiquer entre le rover et l'hélicoptère.
Donc vous assuriez en quelque sorte la bonne transmission des informations entre le rover, on se souvient de cette histoire-là, hein, ouais. Donc ce rover qui s'est posé sur Mars, et ces petits drones qui se retrouvaient dans des situations, on va dire, inédites, hein, en termes de gravité, etc. etc.
Ouais.
Et vous vous occupiez en fait de la transmission entre ces deux appareils.
Alors, l'hélicoptère, ça a été une histoire formidable, parce que c'est bien entendu la première fois qu'on ait jamais réalisé une telle prouesse de voler dans une autre planète. C'était prévu de survivre pour seulement 30 jours, et maintenant ça va faire plus d'un an qu'on est sur la surface de Mars, le rover.
C'est une réussite totale.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur plein de sujets, plein de projets. On va parler de SWOT tout de suite, qui est vraiment une actualité importante, puisque en fait, ce satellite qui est une association entre la France et les États-Unis. Mm-hmm. Je crois aussi qu'il y a le Canada.
Oui, c'est ça.
Enfin voilà, il y a quelques autres pays qui ont participé. C'est un satellite qui s'apprête à être lancé en décembre prochain, je crois.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission de ce satellite SWOT?
Oui. Alors comme je le disais précédemment, toutes les missions sur lesquelles on travaille au JPL, elles sont révolutionnaires. Dans ce cas-là, où c'est un satellite qui va être en orbite sur la Terre, on a développé des technologies de rupture qui nous permettent d'améliorer les mesures des niveaux d'eau sur l'océan, mais aussi pour la première fois sur la surface, c'est-à-dire lacs et rivières. Donc maintenant, on est capable de mesurer des lacs dont la superficie est d'au minimum 1 hectare, mais on est également capable de mesurer des rivières dont la largeur est de 50 à 100 mètres.
Alors qu'est-ce que vous mesurez en fait ? L'étendue de l'eau, la profondeur.
Oui, donc on mesure la hauteur. Donc c'est la hauteur de l'eau, les variations.
Les vagues, en quelque sorte.
Ça peut
pas
être
en temps réel, mais en tout cas
en temps réel, parce qu'on fait des mesures tous les 21 jours. Donc on couvre la totalité du globe tous les 21 jours.
Les évolutions, en tout cas.
Les évolutions, ouais. Et donc ça nous donne beaucoup d'informations. Ça nous permet de maintenant qu'on arrive à voir la globalité de l'eau, que ce soit sur l'océan ou sur la Terre, on arrive à savoir comment cette ressource qui est cruciale d'eau se déplace et change.
Et diminue peut-être aussi.
Pardon ?
Et diminue peut-être.
Oui.
Aussi.
Donc quand je dis change, ça peut être augmente, se déplace, disparaît. Et justement, ça va nous permettre d'impacter la vie quotidienne des gens partout dans le monde, parce qu'on va mettre à disposition ces données très rapidement au reste du monde, gratuitement. Donc ça a été un objectif primordial sur lequel on a eu énormément d'investissements, parce qu'on veut réellement faire en sorte que les gens partout dans le monde auront accès à ces données, et ça va leur permettre d'essayer d'anticiper des phénomènes climatiques tels que les inondations ou la sécheresse. En Californie, on a des problèmes de sécheresse. Ici, on a des problèmes d'inondation. Donc, on va réellement pouvoir anticiper et gérer cette ressource d'eau pour pouvoir éviter ces phénomènes-là.
Et j'ai même lu que ça pourrait analyser les courants qu'il y a dans l'eau, notamment les courants d'eau chaude qui sont, vous le savez, précurseurs de tempêtes, de typhons, enfin de choses comme ça. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais tous ces flux en fait d'eau à différentes températures se satellisent aussi pour aller les répertorier.
Tout à fait. Alors, on ne mesure pas directement la température, on mesure le courant.
D'accord.
Et en fonction du déplacement de l'eau, des courants, on arrive à en conclure les différences de température.
Incroyable.
Et les différences de température, elles sont dues au réchauffement de la planète qui est à plus de 90% absorbée par l'océan. Toute cette chaleur va dans l'océan et elle est relâchée. Mmh. Et c'est cette interaction entre l'atmosphère et l'océan qu'on va essayer d'anticiper, et ça va nous permettre d'améliorer les prédictions climatiques, par exemple, ou ces phénomènes-là que vous avez mentionnés.
Si tout va bien, donc ce satellite qui doit être lancé par SpaceX, prendrait son envol le 12 décembre prochain,
c'est ça ? C'est ça, ouais.
Voilà. Et vous serez où le 12 décembre ?
Alors, 12 septembre, je ne serai pas là-bas, je ne serai pas en Californie pour le lancement, je serai à Toulouse. Pour m'occuper de l'opération, parce qu'on va contrôler le satellite depuis le centre du CNES, qui sont nos collaborateurs.
D'accord.
Avec qui on a eu énormément de plaisir de travailler avec. On va contrôler le satellite de là. Donc, on enverra les commandes et on recevra la télémétrie qui nous donnera des informations sur la santé du satellite.
C'est cool, vous êtes un petit peu chez vous, à la fois aux États-Unis et en France.
Très proche de chez mes parents, je peux leur rendre visite régulièrement.
Voilà, on salue vos parents peut-être qui vous regardent ce soir.
Merci.
Alors ça, c'est un super projet, plus qu'un projet, hein, puisque voilà, ça part dans quelques jours, le 12 décembre. Un mot sur Artemis aussi, qui est aussi quelque chose d'incroyable. Alors, je ne sais pas si vous y avez travaillé directement, mais en tant que ingénieur à la NASA, vous devez vous y intéresser.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je n'ai pas travaillé directement sur Artemis en soi, mais j'ai travaillé sur le payload secondaire. Donc, on a on n'en a pas beaucoup parlé, mais au sein de Orion, qui a été développé par SpaceX, on a 12 CubeSats à l'intérieur. Donc, ce sont de petits satellites qui sont à peu près la taille d'une boîte à chaussures.
Oui.
Moi, j'ai travaillé sur 5 d'entre eux.
Et ils servent à quoi, ces petits satellites ?
Chacun d'entre eux ont différents rôles. On leur a donné l'opportunité de faire différents types de sciences. Certains vont aller vers la Lune, d'autres vont aller vers des astéroïdes.
D'accord.
Donc, chacun d'entre eux ont leur propre priorité.
Voilà.
Mais pour parler d'Artemis, pour revenir sur le sujet, bien entendu, c'est un projet très très important pour la NASA. Mon centre de la NASA avait une petite contribution là-dessus. Moi, personnellement, je n'ai pas travaillé sur les véhicules de lancement. Mais il y avait deux parties là-dessus. Il y avait la partie de SLS, qui est le véhicule qui nous permet d'aller dans l'espace. Celui-ci est très important pour la NASA, parce que ça nous permet d'avoir de lancer des véhicules qui sont très 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 lourds, donc des masses très élevées. Et si on veut aller très très loin,
on sera obligé d'avoir des choses très lourdes.
Voilà. ou Mars, il faut avoir cette capacité.
Voilà, alors on a eu un petit peu peur quand même, parce que la communication, je ne sais pas si vous l'avez suivi, entre Orion et la Terre, s'est arrêtée pendant 50 minutes à peu près. Ça devait être un peu la panique quand même, j'imagine, dans les centres de contrôle. Et puis c'est revenu. Vous qui êtes un expert en communication, vous avez une idée de ce qui a pu se passer?
Non, j'ai pas réellement suivi, donc je ne peux pas commenter là-dessus.
Oui, et puis...
j'ai pas suivi ce qui s'est passé là-dessus, donc je viens l'apprendre avec vous.
Et alors, dernier sujet, alors qui est encore plus incroyable et qui nous fait rêver, c'est le Mars Sample Return. Là, vous travaillez dessus.
Ouais.
Parce que donc et c'est tout ça est vraiment corrélé à Ingenuity, parce que rappelons-le, donc ce rover qui est sur Mars, qui fait des petits, qui arrive à carotter la Terre en quelque sorte et à faire des analyses avec sa petite usine de biochimie, et après envoie des données par satellite via Internet jusqu'à la Terre. Mais ça ne suffit pas. Le nec plus ultra serait de pouvoir ramener des échantillons de terre martienne. Et vous travaillez sur ça, et c'est sans doute l'un des projets les plus, enfin le projet le plus ambitieux qu'on a jamais vu et pensé.
Oui, alors depuis qu'on est allé sur la Lune, oui, c'est probablement le projet le plus ambitieux. Pour plusieurs raisons, il y a énormément de partenaires. Il y a deux contributions. La première contribution, c'est celle de la NASA. C'est le lander qu'on va avoir qu'on va atterrir sur la surface de Mars. Le rôle de ce lander, c'est de rester sur place et d'attendre que le rover, celui-ci, Mars 2020, va lui ramener ses échantillons, va les mettre dans un réceptacle, et ces réceptacles vont être mis dans une fusée qui est à l'intérieur du rover,
qui est dans le lander.
Oui, c'est ça. Le lander va projeter cette fusée, et la fusée va se déclencher, va aller en orbite de Mars. Ensuite, il y a une deuxième contribution qui est celle de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui a développé un orbiteur qui sera en orbite de Mars, qui va avoir un rendez-vous avec cette fusée. Donc la fusée va être en orbite, l'orbiteur va le rattraper et va le capturer. Une fois qu'il l'aura capturé, il va aller en direction de la Terre, et une fois qu'il arrive près de la Terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas essayer d'atterrir, mais il va relâcher ce réceptacle.
Et qui va retomber, en fait.
Voilà, qui va cracher sur la surface de la Terre.
Ah, qui va cracher, il y aura même pas de parachute,
non,
qui vont
rien du tout. Donc il va complètement... je sais pas si on va intégrer des parachutes ou pas, mais pour l'instant, parce qu'on est au début
de la réflexion,
projet, donc peut-être que ça va évoluer, au moment actuel, ce qu'on prévoit de faire, c'est juste de le relâcher, et on développe un réceptacle qui va survivre à l'entrée dans l'atmosphère.
Et à l'impact sur la Terre ou sur la mer, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Incroyable.
Ouais.
On en est où, là?
On est juste dans une phase, ce qu'on appelle de pre-phase A, c'est une phase où on essaie de définir l'ensemble du projet, et on commence à développer quelques parties du projet pour essayer de réduire des risques. Donc on essaie toutes les technologies de rupture à très haut risque, on essaie de les développer au tout début de cette mission.
Et puis on se rend compte évidemment de la puissance symbolique de cette expérience, parce que si on arrive à envoyer un vaisseau sur Mars, qu'il arrive à ramener quelque chose de Mars et revenir sur Terre, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, voilà, on se rapproche de ce rêve d'envoyer un humain sur Mars.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais le but d'Artemis, c'est
ça,
réellement d'envoyer
évidemment
des astronautes.
Commencer par la Lune.
Voilà, on commence par la Lune, on va s'installer sur la Lune, on va avoir une station spatiale en orbite de la Lune, et ensuite, ça nous permet de partir de la Lune directement vers Mars. Donc c'est pour ça, c'est ça les objets. Tout est connecté dans le but d'envoyer les premiers astronautes sur Mars. Peut-être des Américains, peut-être des Français ou Européens. On verra.
Incroyable. On pourrait vous écouter pendant des heures, Nasser.
Merci beaucoup.
C'est passionnant. Merci. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Bon retour en Californie. Vous allez bientôt revenir. Et puis, la porte du plateau Tech & Co vous sera toujours ouverte. Et je suis très jaloux de votre pins NASA, qui est superbe.
Je vais vous l'offrir.
C'est vrai?
Ouais.
Oh, c'est gentil. Alors là, vous allez faire un euro, c'est Noël avant l'heure pour moi. Merci beaucoup, Nasser.